Décryptage.
Anne Cantner.
C'est l'opération de maintien de la paix la plus ancienne, 20 ans de présence en République démocratique du Congo, 16 000 hommes en poste en ce moment, la mission des Nations Unies en RDC en question, au cœur de la visite du secrétaire général de l'ONU ces derniers jours.
Nous n'avons pas des conditions pour fermer la MONUSCO immédiatement, ce serait à mon avis un suicide.
Pas de doute donc pour Antonio Guterres, la République démocratique du Congo a besoin de la MONUSCO, mais la mission se trouve dans une position délicate, critiquée, jugée trop passive et confronté à des coupes budgétaires régulières depuis plusieurs années. Quel avenir pour la MONUSCO? C'est notre question du jour. Bienvenue dans Décryptage. Pour en parler, nous recevons Trésor Kibangula. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur la RDC depuis plusieurs années en tant que journaliste et vous êtes désormais consultant pour le groupe d'études sur le Congo. En un mot, la MONUSCO a-t-elle un avenir?
Ça dépend.
On va essayer de comprendre pourquoi dans les 20 prochaines minutes, en compagnie également de l'envoyé spécial de RFI à Kinshasa. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Vous avez suivi la visite du secrétaire général de l'ONU ces derniers jours. Aujourd'hui, quelles sont les zones dans lesquelles la MONUSCO est la plus présente?
Alors si on parle de la présence militaire, hein, 90% de ces troupes sont dans les zones où opèrent les groupes armés actifs en RDC, donc notamment dans l'est du pays, hein, 130 groupes armés selon le dernier rapport du GIEC. Donc c'est surtout l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika, une partie du Maniema, avec la plus forte concentration à Beni, où se trouve la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO créée en 2013 après la prise de Goma par le M23, cette brigade qui représente 3000 hommes.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, justement, l'insécurité ne baisse pas. Est-ce qu'on sait, Florence Maurice, à quelle fréquence la MONUSCO intervient pour empêcher les attaques de groupes armés et pour protéger la population?
Alors, c'est un peu difficile de parler en termes de fréquence, mais alors bon, sur le papier, son mandat aujourd'hui, c'est de protéger les civils et d'éradiquer les groupes armés. Concrètement, l'ennui, c'est que ça se traduit essentiellement par un travail de patrouille, des casques bleus. Selon la MONUSCO, ça permet à la fois de rassurer les populations, occuper le terrain et dissuader l'ennemi d'attaquer. Elle intervient aussi parfois en appui logistique à l'armée congolaise, mais il y a eu ces derniers temps très peu d'opérations conjointes menées avec l'armée congolaise. C'était devenu vraiment très rare, surtout sur la fin du mandat de Joseph Kabila, même contre les ADF, hein, considérés comme la principale menace aujourd'hui. La dernière opération conjointe remonte à octobre dernier. Antonio Guterres, en visite en RDC, a d'ailleurs reconnu qu'il fallait améliorer cette coopération. Et puis, il y a la question spécifique de la FIB, la brigade d'intervention rapide créée en 2013. En théorie, c'est la seule à avoir un mandat offensif qui donc lui permettrait d'aller de façon unilatérale traquer les groupes armés. Ce matin, sur RFI, Antonio Guterres a rappelé qu'elle avait bien cette possibilité de frapper seule, mais elle ne se sert pas de ce mandat dans les faits. Et il faut ajouter aussi que depuis un an, elle est en plus occupée à venir en appui aux équipes de la riposte à l'épidémie d'Ebola. Voilà, donc tout ça, ça limite un peu son action.
Florence, vous le disiez, en théorie, et Antonio Guterres le rappelait, des militaires peuvent agir seuls, des casques bleus, sans intervenir au sein d'une opération conjointe avec les militaires congolais. Qu'est-ce qui empêche, Trésor Kibangula, que les casques bleus mènent davantage d'actions seuls, justement?
Ben, c'est un déficit des collaborations depuis quelques temps. Il y a eu, vers la fin du régime de Kabila, un discours souverainiste où Joseph Kabila ne voulait plus d'ingérence de la communauté internationale et du coup de la MONUSCO, mais aussi des intérêts un peu paradoxal des officiers qui étaient sur terrain, qui commandaient ces troupes à l'est, du côté des Beni. On a soupçonné à plusieurs reprises des officiers congolais d'être des mèches avec certains groupes armés. Et du coup, ça rendait un peu compliqué le rapport entre les casques bleus et les officiers congolais. À plusieurs reprises même, il y a la MONUSCO qui a demandé de ne pas travailler avec certains officiers de l'armée congolaise et ça a créé comme ça des tensions entre Kinshasa et la MONUSCO.
La tension était effectivement très forte avec l'ancien président Joseph Kabila. Il avait tenu des propos très très directs lors de l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière.
20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigé au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale.
On en parlait, ces déclarations et l'avis du président Kabila avaient vraiment beaucoup compliqué la collaboration des casques bleus avec les militaires congolais. Trésor Kibangula, la situation a-t-elle changé depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi?
Aujourd'hui, justement, on est très loin des discours souverainistes de Kabila. On parle plus de retrait définitif de la MONUSCO d'ici 2020, parce qu'il faut pas oublier, il y a à peine 17 mois, en avril 2018, Kinshasa, les autorités congolaises exigeaient le départ des casques bleus d'ici 2020. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans des discussions d'ordre comment est-ce qu'on fait pour améliorer la collaboration, comment est-ce qu'on redimensionne peut-être le nombre de troupes sur place. Donc il y a une revue stratégique de la MONUSCO qui est en cours et les deux parties vont sûrement s'attendre sur les nouvelles pistes à donner à ces casques bleus qui sont sur place au Congo.
Est-ce qu'on a une idée déjà de cette stratégie?
Comme je disais tout à l'heure, d'après ce qu'on a pu récolter de quelques responsables onusiens sur place à Kinshasa, ça va plus tourner autour de redimensionnement de l'effectif des casques bleus, parce qu'aujourd'hui c'est près de 17 000 hommes sur place et le rendement sur la sécurité et surtout la protection des civils sur place n'est pas très très efficace, et on parle plus de revoir la stratégie. Est-ce qu'il fallait travailler plus avec la force, la brigade d'intervention qui a réussi à vaincre le mouvement rebelle M23 en 2013, ou est-ce que élargir la coopération? Même Félix Tshisekedi récemment en Afrique de l'Ouest a plaidé pour une participation, une implication militaire de la région. Il a envoyé un de ses conseillers privés à Kigali, à Kampala, pour aller discuter avec le dirigeant de la région de la possibilité de peut-être de réformer une nouvelle force qui pourrait travailler avec la MONUSCO pour essayer de pacifier cette partie du pays.
Florence Maurice, on parlait à l'instant de cette brigade, de cette force d'intervention rapide qui a déjà obtenu quelques succès il y a quelques années. Est-ce qu'elle est opérationnelle aujourd'hui pour lutter contre les ADF, notamment ce groupe ougandais qui multiplie les attaques dans l'Est, dans la région de Beni?
Alors, la question des moyens, en fait, elle comporte deux volets. Si on prend les moyens militaires, c'est 3000 hommes avec un mandat offensif. En fait, ce que beaucoup disent, c'est que la question, c'est pas forcément celle des moyens aujourd'hui, mais c'est plus celle des entraves politiques. Trésor Kibangula parlait des problèmes de coopération avec les Congolais, mais on pourrait aussi évoquer le fait qu'à l'intérieur même des Nations Unies, tous les pays contributeurs de troupes ne sont pas d'accord, par exemple, sur le fait de savoir si oui ou non cette brigade d'intervention peut mener des opérations seule. Et il faut l'accord de ces pays contributeurs de troupes pour engager la brigade d'intervention. La question qui se pose aussi, c'est est-ce que finalement c'est le rôle d'une mission de maintien de la paix de faire de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que les hommes de la brigade d'intervention sont formés pour ça? On sait que actuellement il y a une douzaine de soldats brésiliens, des experts du combat dans la jungle amazonienne, qui ont été appelés en renfort pour former les contingents sud-africains, tanzaniens et malawites de cette force d'intervention rapide. Au sein de cette FIB, on reconnaît que le terrain des ADF et cette lutte asymétrique, ce n'est pas forcément la spécialité de ces hommes de troupes. Donc c'est une question assez compliquée, et il y a des gens aujourd'hui qui considère que la brigade d'intervention devrait peut-être tirer les conséquences de ces difficultés à agir ces dernières années et qu'il faudrait s'orienter vers une toute autre stratégie.
En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les critiques ne s'apaisent pas, en tout cas pas dans la région de Beni, où les attaques se multiplient, donc malgré cette présence des casques bleus.
Nous ne voulons plus de cette MONUSCO-là. Ils échouent à éradiquer l'insécurité. Si la MONUSCO réussissait, tant mieux, ils peuvent rester. Mais comme ils échouent, tant mieux qu'ils partent.
Florence Maurice, c'est vous qui avez recueilli ces propos de la société civile à Beni. La population attend-elle encore quelque chose de la MONUSCO?
Plus vraiment. Là, je crois que la déception et le sentiment d'abandon a vraiment laissé la place au rejet. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils critiquent le manque d'efficacité, son manque de présence sur le terrain. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que des attaques peuvent être menées parfois à quelques centaines de mètres d'une base de la MONUSCO. C'est assez incompréhensible pour eux, toutes ces contingences militaires et politiques qui font que la brigade d'intervention ne peut pas courir à leur secours lorsqu'ils sont attaqués, d'autant que dans la perception de la population à Beni et ailleurs, la MONUSCO, c'est la communauté internationale, ce sont des gens qui ont de l'argent, ils ont des moyens, ils voient patrouiller en ville des véhicules blindés suréquipés, et malgré ça, leurs voisins, leurs cousins, leurs frères continuent de se faire attaquer. Alors en 2000, lorsque la MONUSCO avait contribué à repousser le M23, il y avait un espoir qui était né, mais cet espoir est aussi retombé, et comme on vient de l'entendre, une majorité des gens, tout en continuant secrètement d'espérer qu'on ne va pas les abandonner définitivement, disent maintenant le mieux, si elles n'arrivent à rien faire, c'est qu'elles partent. Et il faut préciser que ce sentiment d'abandon est exacerbé par la présence de l'épidémie d'Ebola. Les gens ne comprennent pas pourquoi on met autant de moyens d'attention internationale sur cette épidémie, alors qu'eux souffrent depuis des années et qu'ils ont le sentiment que ça n'intéresse personne en réalité.
Trésor Kibangula, il y a quelques mois, la chef de la MONUSCO a parlé du départ de la mission en précisant « on doit partir parce que si on reste, cela voudrait dire qu'on a échoué ». Alors, quel serait, selon vous, le bon délai pour éviter de s'éterniser davantage et en alimentant les critiques, comme on vient de l'entendre, sans pour autant partir sur un échec pour la MONUSCO?
Moi, je pense qu'il y a une responsabilité aussi du côté de Kinshasa, en tout cas des autorités militaires congolaises, parce que une mission de maintien de la paix ne peut réussir, ne peut être efficace si, de l'autre côté, l'État à qui elle vient en aide n'imprime pas assez de volonté politique ni des capacités militaires à pacifier les pays. On a vu depuis plusieurs années que beaucoup d'officiers congolais étaient impliqués dans le trafic de bois, dans le contrôle des minerais et tout ça. Donc, lorsque l'armée congolaise sera équipés, on a vu, on a quelques échos des officiers qui ont été changés, notamment à Beni, par le nouveau pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc, lorsque cette armée aura la capacité et les moyens nécessaires de pacifier ou de traquer seul ces groupes armés, on pourrait commencer à réfléchir sur comment est-ce que la MONUSCO pourrait laisser la place à une force républicaine congolaise, parce qu'aujourd'hui, décider dans la précipitation du renvoi de ces casques bleus, ce serait, comme a dit encore le secrétaire général des Nations Unies hier ou ce matin sur vos antennes, ce serait vraiment suicidaire. Parce que même s'il y a un état de non-droit dans beaucoup de zones de l'Est de la République démocratique du Congo, pour avoir eu la chance de visiter un peu, de traverser les parcs de Virunga, de Kiwanja jusqu'à Kanyabayonga, et voir comment est-ce que le militaire, comme ils appellent ça, des zones rapprochées, des positions, des FARDC. Moi, j'ai vu des troupes congolaises en train de vendre des cigarettes pour survivre à l'est de la RDC, où on les attend pour combattre les groupes armés. Comment est-ce que ces soldats-là peuvent se sacrifier, aller au front et essayer de sécuriser les populations civiles? Donc, il n'y a pas la prise en charge des troupes. En tout cas, il n'y a pas eu depuis plusieurs années la prise en charge des troupes pour qu'elles fassent leur travail. Et aujourd'hui, on espère, avec le nouveau pouvoir, il y aura une prise en compte de la donne militaire pour que les troupes puissent aller au front et combattre les groupes armés.
Cela signifie, selon vous, que une amélioration sécuritaire ne peut pas se faire sans une réforme de l'armée?
Ça passe par ça. Ça passe obligatoirement par la réforme de l'armée. Mais aujourd'hui, est-ce que... parce que si la MONUSCO a eu à un moment donné un petit succès, c'était à ses débuts. On parlait encore de la Monique. Les pays étaient divisés en quatre, il y avait des rébellions partout. Et la Monique a agi d'abord comme une force d'interposition, et puis elle a contrôlé la cessation, le cessez-le-feu qui a été signé à Lusaka, puis à Sun City, et a aidé, a accompagné ensuite les pays à organiser ses premières élections. Il faut pas oublier, ça fait 20 ans, mais il y a aussi ces résultats-là.
Il y a eu quand
MONUSCO.
Même des succès.
Il y a eu quand même des succès. Et aujourd'hui... pour rebondir, pour que la mission puisse trouver une sorte de lettre de noblesse, elle doit avoir des marges, des manœuvres pour essayer de participer aussi politiquement à ce qui va se passer, notamment à la réforme des institutions et aussi à la réforme de l'appareil sécuritaire.
Florence Maurice, on entendait tout à l'heure les critiques de la population. Ces critiques, évidemment, le président Tshisekedi les connaît. Est-ce qu'elles ont des conséquences sur sa manière d'appréhender l'avenir de la MONUSCO ?
Oui, alors le président Tshisekedi est à la fois critique et demandeur en fait. Hein. Critique, oui, il épouse le sentiment d'une partie de la population que la MONUSCO ne fait pas assez. Hein. Jean-Marc Kaboun, hier, le chef de file de sa coalition, parlait d'un bilan très mitigé. Mais à la différence de Joseph Kabila, lui pense qu'il a encore besoin de la MONUSCO. Le temps, on vient d'en parler, de renforcer son armée. Simplement, il lui demande de concentrer ses moyens sur l'Est et d'être plus efficace et de se concentrer surtout sur la lutte contre les groupes armés. Il est contre, par exemple, le maintien d'une présence de la MONUSCO dans la capitale, Kinshasa, ou dans d'autres villes comme Lubumbashi. Il faut bien comprendre que ces dernières années aussi, la MONUSCO a été perçue par le pouvoir de Kabila comme un outil d'ingérence dans ses affaires politiques, dans ses affaires de droits de l'homme, une sorte de police hein, dans le pays, qui finalement critique les autorités, mais n'arrive pas vraiment à faire avancer sur le terrain, et ça passe de plus en plus mal à Kinshasa parce que l'action militaire de la MONUSCO et sa capacité à repousser les groupes armés, finalement, c'est ça qui fonde son véritable capital politique
et sa légitimité en quelque sorte.
De ce côté-là, voilà. Et donc, en l'absence de résultats sur le volet militaire, sa marge de manœuvre et sa capacité à peser sur les institutions et dans le débat politique est diminuée. Et ça, le message est très clairement envoyé à la MONUSCO. C'est aussi pour ça, je pense, que Antonio Guterres a envoyé des signaux forts au nouveau président et fait quand même une sorte d'amende honorable, reconnaissant qu'il fallait améliorer l'efficacité de la force.
Alors, la mission de l'ONU en RDC, c'est aussi un budget en baisse depuis des années. La MONUSCO a déjà fermé un certain nombre de ses bases. Les coupes budgétaires ont aussi entraîné une réorganisation de celles qui restent ouvertes. Trésor Kibangula, la mission de l'ONU a-t-elle encore les moyens de ses ambitions ?
La MONUSCO, ça reste quand même l'une des missions la plus chère, la plus onéreuse du monde. Elle est peut-être derrière une mission, mais il y a encore des sous. Je crois que c'est 1,1 milliard de dollars qui sont dépensés encore aujourd'hui chaque année par la communauté internationale pour cette mission. Je pense qu'elle a la mission, elle a le moyen pour faire sa mission si elle arrive à se restructurer. Comme Florence Maurice disait tout à l'heure, est-ce que la piste serait pas de reconcentrer ses effectifs vers des zones comme Demande Kinshasa où on attend plus la MONUSCO? Parce que aujourd'hui, la protection des civils, c'est ce que la MONUSCO fait des pires. En République démocratique du Congo, il faut aller à Beni, dans le triangle de la mort, à Ouicha et les territoires aux côtés. Vous allez voir qu'il y a des troupes onisiennes qui patrouillent, mais le lendemain ou le même jour, vous allez entendre qu'il y a de rebelles ADF ont attaqué, ont tué. Donc les gens ne comprennent pas. Il y a un problème entre la présence effective de ces troupes qui patrouillent, qui sont visibles dans la ville, et l'insécurité qui perdure et les civils qui continuent à être tués.
Donc un budget en baisse, mais qui ne signifie pas forcément que les moyens fixés, les ambitions fixées par le secrétaire général de l'ONU soient inatteignables. Est-ce que, en quelques mots, on peut quand même espérer que le message envoyé par Antonio Guterres permette de limiter les coupes budgétaires lors de discussions au Conseil de sécurité?
Il y a beaucoup de pression, notamment des États-Unis qui veulent plus continuer à contribuer assez pour cette mission qui produit peu de résultats. Donc on espère qu'ils vont maintenir un peu de budget pour que la MONUSCO continue à faire son travail, au moins jusqu'à la pacification du pays.
Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Florence Maurice, envoyée spéciale de RFI à Kinshasa, et Trésor Kibangula, consultant pour le groupe d'études sur le Congo. Merci à Éléonore Krenik, Patrick Adam et Alice Ménard qui ont préparé et réalisé cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. À demain.